précédente, puisque nous on va pas vous parler de contes, on va vous parler de fables, mais on va pas être si loin que ça puisqu'on reste dans la tradition orale. Et puis surtout on va vous parler d'un personnage qui est Jean de La Fontaine. Alors c'est vrai que quand on dit son nom, forcément j'imagine, il y en a qui connaissent pas Jean de La Fontaine. Je plaisante, mais c'est vrai que c'est un nom qui dans nos imaginaires collectifs est omniprésent, évidemment rattaché aux différentes fables, même si on en connaît sans doute un tout petit nombre par rapport à la quantité qu'il a écrite. Et puis, peut-être que justement, en tout cas moi ça a été mon cas, grâce à Valère Starazelski, vous allez peut-être découvrir un homme avec une destinée assez particulière et sans doute assez loin de ce qu'on peut penser et imaginer. Alors on va s'intéresser à ce personnage, évidemment on va suivre le thème officiel qui est celui de savoir s'il était un petit peu justement en marge ou en opposition avec le monde de son temps. Mais on ne va pas s'arrêter là, évidemment, on vous parlera bien sûr de cette vie assez particulière. Valère, alors, est-ce que justement il était moi j'avais plus l'image peut-être, alors pas forcément d'un courtisan, mais en tout cas de quelqu'un qui était issu de ce monde, d'une société proche de la cour finalement. Et c'est pas vraiment le cas.
Non. Je parle là ?
Oui.
Ça marche ? Non, ça marche pas ?
Si, si.
Vous m'entendez ? Bien. Alors, en fait, il sera courtisan très peu de temps, puisqu'en fait, il sera courtisan du ministre du budget de l'époque, le surintendant Fouquet. Mais vous savez tous et toutes ce qui est arrivé à Fouquet, puisque Colbert va se charger de le faire chuter. Et d'abord, il se fera connaître comme écrivain dans l'entourage de Fouquet. C'est Madame de Sévigné qui le repère. Et il travaillera quelques temps pour Fouquet. Et il aura la naïveté ou l'honnêteté de soutenir Fouquet après sa chute. Et même d'écrire à Louis XIV pour défendre Fouquet. Ce qui fait qu'il va vraiment aggraver son cas et qu'il sera rayé à tout jamais quelque accès à la cour de Louis XIV. Donc voilà, il sera effectivement en marge après la disparition de Fouquet. Donc ils essaieront de le condamner à mort, ils ne vont pas y arriver. Et il sera enfermé à Pignerol pendant 19 ans. Mais d'ailleurs, à un moment donné, La Fontaine s'en va à Limoges avec son oncle Janard, qui travaillait pour Fouquet, qui l'a mis en contact. Alors on ne sait pas si c'est pour se mettre à l'abri ou non, mais enfin tous ceux qui avaient travaillé avec Fouquet avant d'être récupérés par Louis XIV pour conforter sa cour, ont été emprisonnés ou ont été inquiétés. Donc on ne sait pas, il s'en va à Limoges, c'est le seul grand voyage qu'il fera en diligence. Mais après, il ne sera plus jamais courtisan. Il essaiera. Mais franchement, il n'y arrivera pas.
Est-ce que justement cet épisode, il va le réutiliser dans ses fables aussi, hein? Il y a souvent des allusions à Fouché et à cette situation particulière.
En tout cas, il y a une fable qui s'appelle « Le renard et l'écureuil » que j'ai passée dans le bouquin qui n'était pas publié du temps de la vie de La Fontaine, qui met en scène le renard Colbert et l'écureuil Fouquet. Et il ne faut jamais se moquer des malheureux, car on peut être un jour soi-même, on peut se trouver dans une situation difficile. Non, mais ça va, ce qu'il faut comprendre à partir de ça, mais pas qu'à partir de ça, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours eu, là j'ai quelques notes, hein, je vais vous donner ce que disait le fils de Racine. Le père c'est Jean, le fils c'est Louis. Il ne faut pas demander pourquoi La Fontaine, née dans une fortune honnête, vécut pauvre. Tout le monde sait quelle eût été sa misère s'il n'eût trouvé un asile dans la maison d'une dame qui avait pour lui plus d'amitié que d'admiration. Quelle était sa gloire alors? Il passait seulement pour un faiseur de fables, et ses fables n'étaient pas encore connues. On n'avait point eu le temps d'y découvrir tant de grâces cachées qui font tous les jours croître sa gloire parce qu'on en découvre tous les jours de nouvelles. Donc il est pauvre. Deuxièmement, jamais auteur ne fut moins propre à inspirer du respect par sa présence. Il était l'objet de railleries de ses meilleurs amis, qui, à cause de sa simplicité, l'appelait le bonhomme. Et il y a un souper chez Molière où on dit qu'il a été attaqué si violemment qu'il se défendait si mal que Molière se penche vers un convive et dit à un moment donné, tout bas à un voisin, « Ne nous moquons pas du bonhomme, il ira peut-être plus loin que nous. Il aura peut-être plus de postérité. » Et Molière, qui savait lire, et qui avait plus de finesse, voilà. Donc c'est quelqu'un qui est dans l'embarras d'argent toute sa vie, il a des problèmes d'argent toute sa vie, il est accablé par ça, Et en plus, c'est quelqu'un qui était un inquiet. Ce n'est pas du tout quelqu'un de quiet. C'est quelqu'un qui est un inquiet et qui, je veux dire, n'a aucune confiance en sa bonne étoile. D'ailleurs, sa vie va montrer que, contrairement à ses fables, sa vie est beaucoup moins légère. Mais voilà un homme qui va toujours parler, qui saura apprendre à parler de choses sérieuses et graves de manière légère et de manière, comment dire, j'allais dire optimiste.
Alors on parle évidemment des fables, forcément, puisque dans notre culture commune, c'est quelque chose d'omniprésent. On parle là de ce qui lui a posé des problèmes. Moi, j'ai découvert ses contes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est les contes ?
Alors en fait, La Fontaine, c'est ce que je lui donne ça comme image, comme d'habitude. En fait, c'est quelqu'un qui considère que la littérature, c'est d'abord la connaissance profonde des lettres. Donc ça a toujours été comme ça. Il y a toujours des gens. Moi, je me souviens, j'avais interviewé Houellebecq il y a très longtemps, qui disait pour un journal, il disait mais moi, j'en ai rien à faire de ce qu'il y a avant, etc. Je dis quand même, vous devriez lire Balzac, vous devriez lire. Bon, bref, lui. La Fontaine considère, comme les peintres, qu'il faut étudier les maîtres. Donc il va publier un premier livre qui sera une traduction d'une pièce de Terence, l'Eunuque, à 33 ans. Mais il écrira quelques contes par-ci, par-là, et en fait il va être l'auteur d'une œuvre à 47 ans seulement, puisque ses premières fables sortent, son premier recueil sort quand il a 47 ans. Donc il va écrire des contes, mais c'est ce qui va faire un peu son malheur.
Mais qu'est-ce qu'il y a dans
ces contes? Parce que ces contes sont un peu licencieux pour certains. Ils sont adaptés du Décaméron, ils sont adaptés de tout ça. Donc il y a du sexe, il y a des choses comme ça, quelque chose de très naturel, mais qui étaient un peu des contes tibertins. Et voilà. Mais franchement, il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat. Hein.
Non, c'est juste que ça paraît une époque où il y a une pudibonderie à la cour qui, finalement...
C'est vrai sur la fin du règne de Louis XIV. C'est-à-dire quand Madame de Maintenon... d'ailleurs, en fait, Louis XIV, moi, j'ai pour habitude de le comparer un petit peu à Staline sans le goulag. C'est-à-dire que Louis XIV va... Bon, on m'a fait remarquer à la Sorbonne, j'ai fait une conférence, qu'il y a eu le code noir quand même. Louis XIV, il va, d'ailleurs Chateaubriand l'écrit très bien, il va tout mettre en coupe réglée, il va mettre en place une propagande d'État. Il va pousser la monarchie absolue. Et donc, effectivement, les dévots, d'ailleurs, Tartuffe, c'est vers la fin du règne de Louis XIV. Hein. D'ailleurs, Molière, s'il avait survécu, je pense que Louis XIV l'aurait mis de côté, l'aurait remercié. Mais effectivement, sur la fin du règne de Louis XIV, il y a une pudibonderie, il y a une prise de pouvoir par ce qu'on peut appeler les dévots. Et d'ailleurs, ça va valoir à La Fontaine, alors un grand malheur, oui et non, puisque ça se passe à la fin de sa vie. Ce que je raconte dedans, j'ai retrouvé les écrits de l'abbé Pouget qui a 26 ans. Et en fait, La Fontaine est maître des eaux et forêts à 32 ans. Il achète ses chais de charge. Et le duc de Bouillon, qui est à Sedan, le roi récupère Sedan et donne en échange au duc de Bouillon, le frère de Turenne, le duché de Château-Thierry. Donc les charges royales. C'est une charge royale.
Château-Thierry, ville natale
de La Fontaine. Vont devenir des charges ducales. Donc il va se faire rembourser jusqu'à l'âge de 50 ans ses charges. Mais après 50 ans, il n'aura plus ses revenus. Et en plus, il est aussi gentilhomme servant. C'est la femme, la veuve du frère de Louis XIII. Gaston d'Orléans, qui se trouve aujourd'hui dans le château du jardin de Luxembourg. En fait, il est domestique, quoi. Il sert des plats. Et elle meurt, et lui n'a plus de charge à période de 50 ans. Donc à 50 ans, il se retrouve, mais vraiment au bord de la déchéance.
Je voudrais qu'on explique un peu plus en détail justement cette facette, parce que c'est... Moi, j'étais totalement ahuri en découvrant ça. Donc, vous le dites, finalement, il achète une charge de gentilhomme, c'est ça le
C'est ça, il achète une charge de gentilhomme, on achète le droit de travailler. Donc, or, il émet des œufs et forêts, donc il est à cheval, il parcourt tout le Château-Thierry, des pêches, etc., etc. Il a des remontrances par Colbert parce qu'il ne fait pas bien son travail, il y a trop de braconneurs, il y a trop de choses comme ça et tout. Donc, évidemment, et il passe des jours entiers. Bon, donc, évidemment, ses fables sur le héron, sur tous ces animaux et tout, il baigne là-dedans. Jusqu'à 50 ans, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est quelqu'un qui, j'y vais un peu dans le désordre, hein, c'est quelqu'un qui, comme Jean-Jacques Rousseau, supporte pas le cadre familial. En fait, son père, Charles de La Fontaine, se marie avec Françoise Pidoux, qui a 15 ans ou 20 ans plus que lui. Elle a une fille. Et en fait, le couple s'entend très mal. Elle, c'est la fille d'un médecin d'Henri IV. Le couple s'entend très mal et d'ailleurs, elle part assez vite et c'est le père qui élève les deux enfants. Il y en a un qui sera prêtre. Et le père, Charles de La Fontaine, d'ailleurs, va encourager son fils à écrire. Les deux enfants vont se retrouver sans mère très vite et le couple est ça se passe très mal. Et François Spidou a une fille qu'elle veut marier, le beau-père veut pas qu'elle se marie, enfin bon bref. Ce qui explique que Jean de La Fontaine va se marier, qu'il sera heureux en couple pendant 4-5 ans, qu'il va avoir un enfant, qu'il ne va pas élever, et il sera pas en couple. Il est incapable d'être en couple, incapable d'être dans un cadre familial stable. Et c'est son meilleur ami Maucroix qui va le suivre toute sa vie. D'ailleurs, il va croiser ses œuvres avec Maucroix, comme les Triolet avec Aragon les ont croisés. Et d'ailleurs, qui est prêtre, lui. Enfin, ça ne les empêche pas de faire la bamboche, etc. etc. Hein. Et de se conduire un peu comme des libertins. Et son fils sera élevé par son meilleur ami Maucroix. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment en marge, y compris dans la vie de. Alors, il achète cette charge à 32 ans. À 50 ans, il a plus rien. Et il disparaît. Il disparaît et il habite peut-être rue du Battoir, on ne sait pas trop, mais enfin, il est en voie de clochardisation, quoi. Mais comme il a quand même sorti son premier recueil de fables, comment dire, et qu'il a eu un certain succès d'estime et un succès public, il y a une dame qui a un salon, Madame de la Sablière, qui est une très grande admiratrice de La Fontaine, qui va le récupérer et qui va le loger, le nourrir. Et le nourrir et l'habiller pendant 20 ans. Mais s'il a passé Madame de Sablière, il disparaît dans les rues de Paris, etc. Donc il aura quelques argent un peu à la fin parce qu'il finira par être élu à l'Académie, mais il y aura un refus, etc. C'est très très compliqué. C'est quelqu'un donc qui sera toujours en marge, mais. Je continue. Hein.
Il faut dire qu'on parle de son côté critique vis-à-vis de la monarchie. De la religion, ça, on va peut-être y revenir aussi, mais il est critique aussi de ses collègues. Il a des mots assez durs sur certains, en particulier sur l'auteur qui va le précéder à l'Académie.
C'est Colbert. Il prend la place de Colbert. Il est diplomate, hein, La Fontaine. Il est très diplomate. Il fait attention, mais enfin, il n'en pense pas moins. Mais il met toujours les formes pour dire, écoutez, c'est pas vraiment ce qu'il faut, etc. Parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a d'abord étudié les maîtres, qui a publié très tard. Et d'ailleurs, quand il y aura la querelle des anciens et des modernes, en fait, pour aller vite, les modernes, c'est Charles Perrault qui lance ça en disant c'est le siècle de Louis le Grand. Donc en fait, les anciens diront oui, c'est des sirbottes de Louis XIV qui sont du côté des modernes. Et ça va durer comme ça. Et donc lui, il va prendre parti pour les anciens. Mais Perrault dira mais écoutez, La Fontaine, vous êtes très bien, vous êtes un moderne, vous êtes un faux ancien, puisque vous connaissez bien. Qui avant, mais par contre, vous en avez fait quelque chose d'autre. Et évidemment, c'est là que tombe, en quelque sorte, est frappé d'inanité l'argument qui dit que La Fontaine est un copieur. Non, non, La Fontaine est vraiment un recréateur. D'ailleurs, posons-nous la question. Je vous dirai un petit peu ce que dit Jean Giraudoux ou Édouard de Lamotte tout à l'heure. Des fables, il en existait avant La Fontaine, parce qu'il y a eu Ésope, il y a eu Coram, qui est dans le Coran d'ailleurs, il y a eu Bilpay, etc. Et il y en a eu pendant La Fontaine, parce que quand il fait paraître ses fables, c'est à la mode, c'est à l'école, simplement, c'est des moralistes qui mettent des tartines et des tartines, alors que lui va faire des bijoux poétiques, qui sont lisibles et compréhensibles tout de suite. D'ailleurs, avec tout, pas forcément des morales. Hein. Il n'y a pas forcément des morales à la fin. Si vous regardez bien les fables, elles sont contenues dedans, et d'ailleurs, il y a plusieurs lectures possibles.
Ou elles peuvent être au début, parfois, les morales.
Ou elles peuvent être au début, c'est ça. Il y a pas de. En fait, il va dire oui, il va faire semblant d'obéir à comment on lui dit d'écrire les fables, mais il va en faire qu'à sa tête, plus. Je vais dire en prenant l'assurance. Et, comment dire. Avec ses. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura aussi des fables après, puisque même Napoléon en a écrit une, mais c'est les siennes qu'on retient encore aujourd'hui. Pourtant, ça fait 4 siècles. Ce sont les siennes.
Et d'ailleurs, c'est un exemple formidable, puisqu'on parle aujourd'hui beaucoup, et en particulier dans ce salon, de ce qu'on appelle les littératures populaires, qu'on va opposer à d'autres littératures. Il est ce représentant finalement d'une littérature populaire, puisque ses fables, sont même de son temps, sont connues d'un grand public, mais par contre, elles sont déconsidérées par, j'allais dire, une intelligentsia.
Oui, c'est ça. J'ai toujours l'habitude de dire que La Fontaine ne serait pas passée à la télévision. C'était un ringard. C'était un auteur mineur.
Il fallait écrire du théâtre.
Alors, voilà. Alors, d'ailleurs, il essayait, il en a écrit du théâtre. Alors, c'était un bide à chaque fois. D'ailleurs, à un moment donné, quelqu'un trouve La Fontaine dans un café à côté du théâtre où on jouait une de ses pièces. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, oh, bah, je m'ennuie tellement que je suis venu boire un pot là. Et à chaque fois, les comédiens ne veulent pas parce qu'ils se prennent des tomates et tout. Mais ils s'acharnent, mais bon, ils n'y arrivent pas. Et donc, il ne serait pas passé à la télévision. D'ailleurs, son ami Boileau, alors Boileau a 27 ans, Jean Racine en a 23. C'est un cousin de sa femme, etc. Donc, il sera très copain avec Racine. Certainement avec Molière aussi, on n'en a pas certitude, mais bon, il y a quand même des. Notamment, il y a une anecdote qui fait qu'un soir, ils sont tous les quatre en train de dans une beuverie et ils sont assez désespérés. Et ils veulent aller se jeter dans la Seine, mais arrivés devant la Seine, ils disent, il fait un peu froid, on verra ça demain matin. Et comment dire, et le. Comment dire, ce travail comment dire, de La Fontaine sur l'écriture et comment dire, un travail en fait très 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 précis, très.
Alors qu'en plus, on lui reproche aussi cette façon de versifier.
Oui, bien sûr. Alors voilà,
C'est des vers irréguliers.
voilà, c'est d'abord Patru lui dit, c'est un patron en littérature, il dit non, faut pas en vers. Après, il faut faire en vers régulier, etc. Mais quand vous lisez les fables, c'est là que vous vous apercevez en fait que La Fontaine est un très grand poète. D'ailleurs, y compris, c'est vrai que chez Hugo, il y a des noms propres qui sont passés en langage courant, un Gavroche, etc. Mais chez La Fontaine, même dans la publicité, pour ceux qui, ou même encore aujourd'hui, il y a des expressions françaises qu'on emploie qui viennent directement de La Fontaine. On ne le sait pas. Vous vous souvenez tous, enfin, pour ceux qui ont un certain âge, de la publicité sur les petits pois, on a toujours besoin d'un plus petit que soi chez soi. Jusque dans la publicité, c'était logé. Donc, ça a complètement, je veux dire, travaillé notre langue. Et c'est inscrit profondément. Alors, pour en revenir à la question de tout à l'heure, oui, c'est un auteur qui deviendra populaire. Oui, c'est un auteur qui n'est pas reconnu à l'époque. Boileau, donc son ami Boileau, fait écrit un traité du style, un traité de poétique, art poétique, pardon, je confonds avec Aragon. Et dans cet art poétique, il dit, ben voilà ce qui fait la littérature de ce siècle.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots
Voilà.
pour le dire arrivent aisément.
Aisément. Et donc, en fait, il y a tout le monde sauf La Fontaine. La Fontaine n'est pas dedans. Il est pas considéré comme quelqu'un qui doit faire partie de comment dire, des créateurs dignes de ce nom au XVIIe siècle. Mais aujourd'hui, ben c'est qu'on continue de lire, de traduire et de le.
Alors moi je me suis posé la question, j'ai discuté avec un auteur justement parce que j'étais en train de, pour tout dire, de relire le livre jeudi du côté de la cafétéria.
De réviser.
Voilà. Et un auteur m'a vu lire, on a discuté un petit peu et on se posait la question de savoir justement si ces fables, elles avaient toujours été populaires ou si finalement il y avait eu, comme ça peut arriver pour certains auteurs, une éclipse. Et puis savoir si justement qui avait remis ces fables au goût du jour, parce que je pense qu'on est nombreux ici à en avoir appris à l'école. Qu'on soit un peu plus jeune ou un peu plus ancien, et donc savoir effectivement est-ce que cette popularité des fables, elle a été permanente.
Oui, lui, c'est pas Vivaldi, hein. Ni Diderot, que je dis Vivaldi parce qu'on a retrouvé ses œuvres 3 siècles après, qu'on écoute aujourd'hui.
Même
Diderot,
Bach qu'on a un
oui,
peu délaissé.
voilà, ou Diderot, les romans de Diderot, c'est pas les bijoux d'un discret, c'est. Comment?
Jacques le fataliste.
Oui, non, c'est pas celui-ci, c'est sur la religieuse.
La
Ouais, c'est un siècle et demi après que ça a apparu. Non, lui, il y a eu un succès, disons, d'estime immédiat. Donc, à 47 ans, il sort ce premier recueil. 10 ans après, il en sort un autre. D'ailleurs, quand il sera chez Madame de la Sablière, elle tient un salon. Donc, il va rencontrer des gens qui sont notamment Bernier, qui est un savant qui revient du Moyen-Orient et tout. Et donc, il va enrichir encore davantage ses fables. Et il va d'ailleurs prendre beaucoup plus confiance en lui. Parce que, par exemple, dans le discours à Madame de la Sablière avec des fables qui suivent, il s'attaque à Descartes. Alors, le 17e, c'est un siècle de crise, hein, un peu comme aujourd'hui, crise économique très forte, du chômage, de la famine, enfin, la fin du règne de Louis XIV, c'est l'enfer. C'est là que fermente, à mon avis, la révolution. Et, comment dire, il y aura un écho tout de suite. Et je pense que l'éclipse qu'il y a eu par rapport aux fables, c'était là il y a 20 ans. C'était là il y a 20 ans parce qu'il était plus enfin, il était plus au programme officiellement. Les instituts ou les enseignants pouvaient le mettre au programme, mais il n'était plus au programme, mais il revient depuis pas très longtemps. Et je pense que si cet auteur s'est transmis comme ça, c'est parce que c'est ce que j'appelle moi la liberté française. Enfin, cette façon en même temps extrêmement polie, extrêmement mesurée, modéré dans la forme, de dire des choses terribles, quoi. selon que vous serez puissants ou misérables, les jugements de cour vous rendront blancs ou noirs, enfin, et de s'adresser au plus grand nombre. Donc, en fait, non, il n'y a pas eu d'éclipse. Mais par contre, il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu le supplanter, à commencer par ses amis d'époque, en disant, mais non, ça ne doit pas être écrit comme ci, mais comme ça, etc. Mais personne n'arrivera à l'égaler. Enfin, jusqu'ici. Peut-être que dans deux ou trois siècles, hein, sûrement, mais pas pour l'instant.
La critique de Descartes, il faut dire qu'elle est intrinsèque aux fables, parce que Descartes, lui, estimait que les animaux n'avaient pas d'âme.
Voilà, c'est ça. Alors, c'est ça. Il dit Descartes, donc, le 17e, c'est ses crises, et puis c'est Descartes qui va finir par s'imposer comme penseur. Et en fait, il répond à Descartes, dit les animaux, c'est comme des horloges, c'est comme des pendules, enfin
des automates,
des instruments. Et lui, il se récrit, il dit non, pas du tout. En fait, il participe de la philosophie, disons qu'il est chrétien, il est dans l'idéologie chrétienne, mais il est aussi dans cette idéologie d'Épicure à l'époque. Donc Épicure, hein, je rappelle, c'est je ne sais plus combien de siècles avant Jésus-Christ, il y a Aristote, il y a Platon, mais il y a aussi l'université du jardin, du jardin d'Épicure, qui est une université populaire. Les gens du peuple peuvent venir, etc. Et c'est un auteur matérialiste qui, c'est pas la jouissance absolue, c'est comment ne pas mourir désespéré.
Et le sens d'aujourd'hui est un petit peu dérivé. Hein,
oui, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on a... Voilà. Mais donc...
C'est et en, le carpe diem. Hein,
voilà, c'est pareil. La même chose. Et donc, en fait, l'Épicure, c'est... considère aussi les animaux comme faisant partie du monde vivant. Et La Fontaine, il s'oppose à Descartes et en écrivant ce discours même de la Sablière et en écrivant aussi des fables derrière. Il raconte notamment comment deux rats arrivent à voler un œuf. Donc le rat se met sur le dos, en serre l'œuf et l'autre, avec sa gueule, le tire. Comme ça, bon, il dit, vous voyez, ils sont pas si bêtes que ça. Ils sont pas... Et d'ailleurs, j'avais trouvé un truc par rapport à ça qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur les animaux. Il faudrait que je vous retrouve, parce que d'où le titre Le Maître du Jardin. Alors bien sûr, il y a Voltaire, il faut savoir cultiver son jardin, parce que je pense qu'effectivement, la grande leçon de La Fontaine, c'est aussi une leçon de vie, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas une vie toute rose du tout, mais il n'est pas du tout dans la plainte, il aurait pu être reconnu par la cour, mais d'ailleurs, comme dit Fumaroli, c'est son malheur d'homme de ne pas être reconnu, de ne pas passer à la télévision, quoi, de ne pas être dans tous les journaux et tout, mais c'est sa chance d'artiste. Parce qu'il va vraiment travailler, aller le plus loin possible. Il attend rien, sinon il aurait fait le courtisan, effectivement, et il ne serait pas allé très loin. Et, comment dire, il pourra, en fait, avoir énormément de liberté dans son écriture. Et c'est pour ça que je dis que c'est la liberté française. D'ailleurs, je dois dire que, si je me suis lancé... En fait, moi, je suis un spécialiste d'Aragon. J'ai fait ma thèse sur les derniers romans d'Aragon, l'après-stalinisme. Comme je viens des milieux populaires, bien sûr, vous imaginez bien Aragon, etc., dans quelle mouvance politique je suis. Je considère que le patrimoine national, que la nation, n'appartient pas qu'à une partie du spectre politique. Et je considère qu'à gauche, on délaisse beaucoup trop, mais vraiment beaucoup trop, l'idée de nation, mais aussi le patrimoine national et notamment culturel. Et on a tort. On a vraiment tort. Donc, j'essaie, moi, avec mes petits moyens... J'ai écrit un bouquin sur les 25 ans avant la Révolution française. Et là, je fais ce La Fontaine. Donc, j'écris d'autres choses aussi. Mais, je veux dire, c'est vraiment pour moi, j'allais dire, un objectif politique dans le sens noble du terme.
Il aurait été communiste, La Fontaine ?
Non, je ne sais pas s'il aurait été communiste. Je crois pas. Je crois pas. Mais disons que c'est...
Il est humaniste, en tout cas. C'est ça qu'on voit aussi.
Oui, voilà. C'est un humaniste. C'est quelqu'un de libre. Et c'est quelqu'un qui... je pense à Aragon, bien sûr, qui utilise la contrebande. C'est-à-dire, en pleine guerre, Aragon écrit comme les... reprend... dit, voilà, donc Aragon est démobilisé. Il fait toute la guerre. D'ailleurs, dans un roman qui porte mal son titre, qui s'appelle Les communistes, qui est un roman balzacien qui est vraiment fantastique, qui raconte la guerre qui est faite. Donc, Aragon a fait les deux guerres. Il s'est comporté à chaque fois de manière extrêmement courageuse. D'ailleurs, il est décoré pour ça. Il a sauvé quelqu'un de la famille Rothschild qui était en train de mourir sur le bas-côté. Il a inventé une clé pour sortir des types qui étaient coincés dans les chars Renault. Enfin, bref, il va chercher les blessés et tout. Et donc, il fait la guerre en Belgique et dans tout le nord de la France. Et il débarque en Dordogne. En Dordogne, là, il écrit un texte, Aragon, qui s'appelle La Rime en 1940, et il dit, voilà, ici vivait un troubadour, Arnaud Daniel, qui travaillait avec Dante, et qui a écrit l'art des troubadours, c'est-à-dire de chanter l'amour de sa belle en masquant l'objet, quoi, je veux dire, avec un sous-thème. Et en fait, La Fontaine, ce qui me fascine, c'est ça, c'est D'abord, j'avais entendu Solers dire, parce qu'il se trouve que j'écris pour l'UMA, mais aussi pour Témoignages chrétiens de manière tout à fait bénévole. Témoignages chrétiens, c'est un très bon journal qui est issu de la Résistance d'ailleurs. Et donc, ils m'ont demandé une page sur Céline. Donc, j'ai relu tout Céline. Les romans et tout Céline, c'est un grand romancier.
Courageux.
Non, c'est un très grand romancier. Vous savez, à droite, ils ont Chardonne, Morand, Jouhandeau, c'est des très très grands romanciers. Et
Drieu La
Giraudoux aussi.
Rochelle, on en
Drieu La
parle
Rochelle aussi, oui.
récemment.
Et d'ailleurs, Drieu La Rochelle, en 44-45, je ne sais plus quand exactement, a relu Aurélien toute la nuit, en pleurant, et il s'est mis une balle dans la tête à la fin, où il s'est suicidé au gars, je ne sais plus, parce qu'en fait, Aurélien, c'est lui, c'est Drieu La Rochelle. Le pilotiste, c'est Drieu La Rochelle. Et en fait, ce qui me fascine, c'est ça, c'est qu'ils ont pas eu des vies faciles, mais comment dire, ils célèbrent la vie. Et il la célèbre en tenant compte de ce qu'il y a eu, en s'inscrivant dans une chaîne littéraire avec énormément d'exigences et en même temps beaucoup de simplicité. Donc il faut beaucoup travailler pour ça, beaucoup d'humilité. Et c'est vrai que c'est jamais la mode. Enfin bon, j'ai dit aujourd'hui, je veux dire, il y a la télévision, il y a les renvois d'ascenseurs, il y a tout ça, il y a l'industrie. Mais à l'époque de La Fontaine, c'était pareil. À l'époque de Voltaire, c'était la même chose. C'est toujours une lutte. C'est toujours une lutte, la qualité, l'exigence et en fait la vérité, quoi.
Alors, on n'a pas beaucoup parlé de la forme du livre, mais on va le faire maintenant parce que ça nous permet d'arriver à un autre thème. Vous voyez que le livre est assez peu épais, donc ne vous attendez pas à une biographie extrêmement détaillée du premier jour jusqu'au dernier. Ce sont quatre moments de vie que vous avez choisis, sous des angles différents les uns des autres. À chacun, vous lui associez une saison. En commençant par le printemps et jusqu'à l'hiver. Et dans la dernière partie, justement, et j'en disais un mot tout à l'heure, on le sent non plus dans le collimateur du pouvoir monarchique, par contre, on le sent dans le collimateur de la religion. Qu'est-ce qu'il a fait pour les fâcher à ce point-là?
Bah,
Parce qu'en gros, on lui explique qu'il va finir à la fosse commune.
oui, c'est mais Voltaire, souvenez-vous, Voltaire, c'est terrible, hein, Voltaire, on met son cadavre dans un carrosse, comment dire, on le momifie un petit peu, on l'attache et on file en dehors de Paris pour l'enterrer sous une dalle, dans une, je sais plus où exactement. Voilà, on ira chercher ses restes après pour les mettre au Panthéon, mais ça rigolait pas à l'époque, hein,
C'est quand vous
c'était.
parlez de stalinisme, il y a quand même une scène ahurissante à la fin du livre. C'est La Fontaine devant les autorités religieuses, devant les académiciens venus en délégation avec les étendards.
Il fait
C'est une
son
scène ahurissante
autocritique, oui.
qui fait son. C'est pas dit autocritique dans le livre, mais
Oui, c'est ça, oui.
ça fait vraiment
Bah,
penser à
c'est
ça.
la révolution culturelle, oui, c'est ce côté-là. Bah, ce qui se passe, c'est que La Fontaine, donc c'est la dernière partie, c'est l'hiver. Donc d'abord, tout ce qu'il y a là-dedans est vrai. J'ai pas. Parce qu'il y a des biographies qui sont très bien, très belles, de Jean Rieux, de Duchesne et tout, mais avec beaucoup de légendes. Donc moi, je me suis attaché à ce qui était vrai. Par exemple, il n'a jamais touché un centime du pouvoir de Louis XIV. Jamais. Jamais. Et donc, en fait, à la fin de sa vie, Madame de la Sablière est très malade. En fait, elle a un cancer du sein. Son mari meurt, donc elle a un peu moins de moyens de rente. Excusez-moi, je suis fatigué.
Il faut rappeler
Et
aussi le contexte historique, c'est qu'on est après 1685 et donc il y a eu la révocation de
alors
l'évêché de
voilà,
Nantes.
j'y viens. Oui, donc en fait, elle est d'origine elle protestante, mais elle s'est convertie. Par contre, ses enfants non. Donc, il y a une véritable bon, la révocation des édits de Nantes, pour vous donner un exemple, les dragonnades, les dragons sont chez les gens, ils violent la mère, ils tuent le fils, etc., jusqu'à temps qu'ils se convertissent, quoi. Et ils en ont converti 30 000 comme ça. C'est l'horreur absolue, quoi. Bien. Donc, Madame de la Sablière a moins de moyens, et en fait, elle ne peut plus loger La Fontaine où elle logeait. Elle va le loger rue Neuve des Petits Champs, dans une seule pièce. On monte par un escalier, dans une seule pièce, où il n'y a pas de carreau d'ailleurs, et il n'y a pas de feu. Ce qui fait qu'il va passer les 15 dernières années de sa vie, puis à l'époque, il faisait du moins 18, hein, l'hiver. Donc, il va passer son temps là. Donc, il va. Et il est très attaché à Madame de la Sablière, qui est en train de mourir, qui est agonisante. Et donc il pense qu'il va mourir lui aussi. Parce qu'il est très amoureux d'elle, etc. Donc il est vraiment très mal. Et donc on appelle. Il fait partie de la paroisse Saint-Roch. Et le curé de la paroisse Saint-Roch dit non, c'est La Fontaine, il y a trop de. C'est un écrivain, etc. J'ai envoyé un vicaire. Il envoie un vicaire qui s'appelle l'abbé Pouget, qui a 26 ans, qui lui est un garde rouge. Très. Voilà. Et donc La Fontaine, bon, il se rend compte, je raconte ça, et en fait l'abbé Pouget a retranscrit tout ça. Donc je me suis servi, il a écrit deux fois, il a relaté deux fois les choses. Et La Fontaine lui dit, bah, écoutez, je veux bien qu'on voit ensemble pour ma confession générale, pour avoir l'absolution. Ça va durer 15 jours, et ça va être une lutte mais infernale entre l'abbé Pouget, Tu dis, bah, écoutez, monsieur La Fontaine, je veux bien, mais il faut. Est-ce que vous avez des choses là que vous avez écrites? Il dit, oui, j'ai une pièce de théâtre. Il dit, vous me la donnez pour la détruire. Comment ça? Enfin, bon, il finit par lui donner et ils vont détruire la pièce de théâtre. Et il va lui faire renier tous ses comptes et il va l'engager à n'écrire que pour la gloire de Louis XIV et de la religion. Heureusement pour nous, c'est arrivé, il mourra 2 ans plus tard, c'est arrivé à la fin. Et il doit faire une déclaration avec tout un cérémonial que je raconte dedans, et avec sa vraie déclaration qu'il fait, où il fait amende honorable. Et il va mourir en fait un peu plus tard, parce qu'en fait le Fénelon, qui à l'époque est le précepteur de celui qui doit remplacer Louis XIV, tient beaucoup à La Fontaine, donc il lui donnera une bourse, donc La Fontaine l'après-midi même va renaître. Et quand il mourra, en fait, on va retrouver sur lui des objets de punition, des cilices, etc., etc. Il se punit réellement, quoi.
Il faut dire
Donc,
que
donc
cet
voilà.
argent qui tombe du ciel, c'est vraiment la dernière semaine de sa vie. Il n'a jamais eu autant d'argent dans tout le reste de son existence, finalement.
Voilà, il mourra un peu plus tard, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont peur qu'il s'en aille en Angleterre. Certains prennent conscience, donc il y a des gens, il y a Saint-Évremond, etc. Vous savez, bon, après la révocation de l'édit de Nantes, jusqu'à il y a très, très, très peu de temps encore, enfin disons, très peu de temps, excusez-moi. Peut-être un siècle, il y avait des villages en Allemagne où on parlait français couramment. Voilà. Donc il y a tout à Londres, et donc ils ont quand même peur. Fénelon se dit, c'est pas possible que La Fontaine finisse ses jours à Londres, quoi. C'est quand même un monument national, etc. Donc il y a des gens qui ont conscience de ça, et effectivement, il dit que c'est le duc de Bourgogne qui donne cet argent, mais pas du tout. C'est Fénelon qui, lui, d'ailleurs, sera écarté pas longtemps après par son ancienne amie, Madame de Maintenon.
Alors, j'ai 2 dernières choses à vous demander qui sont assez anecdotiques, l'une et l'autre. Puis après, on va demander au public présent s'ils ont des questions à vous poser. Moi, j'aimerais que vous nous racontiez une anecdote qui, moi, m'a énormément fait rire. Un soir, il est invité à un dîner à Antony, je crois, si je me souviens bien. Sauf qu'il ne va jamais aller au dîner. Ou en tout cas, il va arriver après que tout le monde ait fini de manger. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi il arrive après tout le
Bah,
monde?
parce qu'en fait, il dit qu'il va à l'enterrement d'une fourmi. Et donc,
Alors c'est quoi l'enterrement d'une fourmi?
ben en fait, il s'est arrêté. Certains disaient qu'il le voyait à telle heure sous un arbre. Il repassait 6 heures après, il était toujours sous le même arbre. C'était quelqu'un qui était extrêmement contemplatif, qui était très contemplatif. Et évidemment, il avait un grand. Il aimait observer les animaux, etc. Une autre fois aussi, une autre.
C'est la phrase qu'il donne quand il arrive au
Oui,
dîner qui est extraordinaire en disant j'ai raccompagné la famille jusqu'à sa demeure, c'est
c'est
ça?
ça, oui, j'ai assisté. Et il a un côté très, pas du tout infantile, mais enfant.
Oui, ou distrait, ou enfin
Oui, il est très.
dans
Enfin,
son monde.
voyez, dans son monde, il a un imaginaire très puissant. Bah, d'ailleurs, pour arriver à écrire ce qu'il a écrit, c'est qu'il a. Alors, comme il n'est pas courtisan, comme il n'est pas tout ça, etc., et puis comme il est pris en charge par Madame de la Sablière après, mais de toute façon, même quand il émet des eaux et forêts, il fait que des conneries. On lui donne des choses, il les oublie. Enfin bon, il a du mal à se concentrer sur ce qu'il fait, quoi.
Alors, j'avais une dernière question, et là c'est vraiment de la curiosité personnelle. Vous dédicacez le livre à votre maman.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire comment elle s'appelait, votre maman?
Elle s'appelait Colette Perrault, parce que moi j'ai un nom russe, parce que j'ai un grand-père qui est russe, blanc. Et en fait, toute ma famille vient du Quercy, du Poitou. Valère, c'est un vieux prénom français.
Et donc, vous descendez d'une famille Perrault et vous nous parlez de La Fontaine?
Parce que, bah peut-être, bah parce que vous savez, parce que Perrault, lui, en fait, vous en avez peut-être parlé tout à l'heure, mais Perrault, lui, il avait rang de ministre. Hein. C'était quelqu'un qui était vraiment dans l'appareil d'État. C'était donc on a toujours l'impression que, etc. Mais juste avant les questions, peut-être que je peux vous lire du point de vue de Jean Giraudoux, pourquoi est-ce qu'il y a le succès des fables? Alors évidemment, il y a le style, et c'est ce que dit Oudart de la Motte. Il dit, en fait, il instruit les gens, mais enfin, les lecteurs n'aiment point les préceptes trop directs. Et il dit, les lecteurs veulent qu'on les instruise humblement, et ils ne se corrigeraient pas s'ils croyaient que se corriger fût obéir. Donc il a cette faculté, cette humilité presque dans l'écriture de s'effacer totalement. Vous savez, il y a une dame qui s'appelle Heinisch qui a écrit un bouquin qui était une élève, une étudiante de Bourdieu sur la visibilité plus que la renommée aujourd'hui. Donc en fait, avant c'était les quartiers de noblesse et maintenant c'est le nombre de fois où on passe à la télévision de manière médiatique. Donc elle a écrit un essai là-dessus et elle dit que c'est même plus les gens sont plus connus depuis la télé-réalité, Paris Hilton, enfin tout ça. Et en fait, elle disait à un moment donné, pour bien se faire comprendre, elle disait l'écrivain lui s'efface complètement derrière son œuvre et aujourd'hui c'est le contraire. C'est les gens, ils passent 10 fois à la télévision donc ils sont connus et voilà, avec beaucoup de vide derrière. Mais ce qui peut dire des choses sur le moment où on en est. Alors ça, c'est du point de vue de l'écriture. Mais je suis tombé sur une conférence de Jean Giraudoux en 1935. qui moi me paraît être vraiment la raison pour laquelle, la raison principale, essentielle pour laquelle les fables sont encore aujourd'hui lues. Voici le problème, dit-il. Toute la littérature du XVIIe siècle nous a donné du règne de Louis XIV une description magnifique qui correspond peut-être à la gloire et à l'orgueil de la royauté française, mais pas le moins du monde à l'état de la France. Sur la misère, la pauvreté, l'angoisse et l'épuisement de la nation, la littérature a observé un mot d'ordre qui n'aurait pas été mieux observé s'il lui avait été imposé par la force. Tous les phares antiques et classiques ont été passés sur le pauvre visage anémique de la France. En place de Bayon, on a mis sur sa bouche qui criait la faim un porte-voix dans lequel, par l'entremise des auteurs les plus géniaux, elle clamait les conflits amoureux de son cœur. La première grande opération de propagande d'État a réussi complètement grâce à Molière, Racine, Boileau et consorts. Le secret n'a été trahi que trois fois par les prosateurs. Premier prosateur, Vauban, dans la dîme royale. La dixième partie du peuple est réduite à la mendicité et mendie effectivement. Les neuf autres parties, etc., etc. Deuxième traître, la Bruyère. L'on voit certains animaux farouches, des mâles et femelles répandus par la campagne, noirs, livides et tout brûlés de soleil, attachés à la terre, qu'ils fouillent et qu'ils remuent avec une opiniâtreté invincible, et ils sont comme une voix articulée, et quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face humaine, et en effet, ce sont des hommes. Entre l'arbre et moi, là, tout à coup, ce qui se lève, ben oui, c'est un homme. C'est pas une bête, c'est pas, etc., c'est un homme, et c'est dit pour la première fois. Troisième traître prosateur, c'est Fénelon, qui écrira une lettre au roi, que Madame de Menton ne remettra jamais. Vous êtes né sire avec un cœur droit et équitable, mais ceux qui vous ont élevé ne vous ont donné pour science du gouvernement que la défiance, la jalousie, l'éloignement de la vertu, la crainte de tout mérite éclatant, le goût des hommes souples et rampants, la hauteur et l'attention à votre seul intérêt. On vous a élevé jusqu'au ciel pour avoir, etc., etc. Ils ont voulu vous élever sur les ruines de toutes les conditions de l'État, etc., etc. Au lieu de tirer l'argent de ce pauvre peuple, il faudrait lui faire l'aumône et le nourrir. La France entière n'est plus qu'un grand hôpital désolé et sans provision. Voilà pour les prosateurs traîtres, selon Giraudoux. Et il dit, dans la poésie, il n'y a eu qu'un seul traître, c'est notre courtisan de Vaux-le-Vicomte. Et il donne des exemples, que je reprends aussi. Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde? En est-il un plus pauvre à la machine ronde? Point de pain, quelquefois, et jamais de repos. Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier et la corvée lui font d'un malheureux la peinture achevée, la mort et le bûcheron. Amusez les rois par des songes, flattez-les, payez-les d'agréables mensonges, quelque indignation dont le cœur soit rempli, ils gobront la pas, vous serez leur ami. Je définis la cour, un pays où les gens tristes, gais, prêts à tout et à toute indifférence sont ce qu'ils plaît au prince, ou, s'ils ne peuvent l'être, tâchent au moins de le paraître, peuple caméléon, peuple singe du maître. Évidemment, selon que vous serez puissance ou misérable, etc., etc. Alors, c'est-à-dire que plus que passer la société de son temps au rayon X, c'est-à-dire quand je parlais de crise au XVIIe siècle, on peut dire, c'est comme aujourd'hui, je pense, c'est moins une crise que la crise d'un système inégalitaire ou un système inégalitaire qui est poussé au bout. Alors après, c'est au peuple de s'en rendre compte ou pas, et puis de faire, comme on a fait il y a quelque temps, une révolution pour nous, en tout cas pour la France, à mon avis, qui a des conséquences durables, vraiment durable, alors que d'autres pays, les révolutions ont eu des conséquences beaucoup moins durables. Et je crois pouvoir affirmer aussi que non seulement donc il démonte le fonctionnement de cette société inégalitaire, mais j'irais même jusqu'à dire qu'il y a un contenu de classe dans ces fables. Il y a un contenu de classe qui prend, lui, les couches populaires, elles existent. Elles ne sont pas gommées. Elles font partie du paysage. Elles font partie de l'ensemble de la population. Elles ne sont pas gommées, comme dans bien d'ailleurs. Et donc, c'est ce qui fait, à mon avis, que La Fontaine est toujours, non seulement actuelle, mais universelle. Moi, je vais en vacances en Autriche. La dame de la pension, elle connaît Fables de La Fontaine. Je connais un copain peintre moldave. Il connaît une récite de Fables de La Fontaine en moldave. Et je ne sais pas si les Chinois connaissent La Fontaine. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, je vous répète, c'est l'auteur français le plus lu aujourd'hui dans le monde.
Bah, on va voir s'il est populaire à ce point-là jusqu'ici. Est-ce que vous avez des questions à poser à Valère Starzelski? Non, pas du tout.
Ah, si. Qu'est-ce qui l'a amené à écrire ce livre-là? Est-ce que vous étiez un spécialiste d'Aragon? Pourquoi tout à coup cet intérêt pour La Fontaine?
C'est mon éditeur. En fait, moi, j'écris des romans qui ne sont pas du tout des choses comme ça. Enfin, j'écris un roman historique. Je suis en train d'en écrire un, d'ailleurs, là, sur l'extraction des corps royaux en 93. On prend les cadavres des rois, on creuse des fosses et on les met dedans. Et on les met debout d'ailleurs, etc. Enfin, il y a quelque chose de très violent qui se passe. Mais en même temps, la France, ils n'arrivent pas à lever des armées révolutionnaires. Donc, ils sont obligés de faire durement. Et puis, il y a les choix, il y a tout ça. Donc, il y a quelque chose qui se passe. D'ailleurs, ce n'est pas du tout Robespierre, comme dit Laurent Deutsch, dans son truc, parce que Laurent Deutsch, il est très gentil, bon, il est catholique, moi je respecte complètement, mais il est surtout monarchiste et très d'extrême droite, donc c'est quand même empreint d'une certaine idéologie, ce que son bouquin, etc. Bon, moi je l'aime beaucoup par ailleurs, hein. Mais c'est pas du tout Robespierre, c'est Barrère. Barrère qu'on va retrouver 18 ans après, d'ailleurs, au service des rois de France, de Louis XVIII, etc. Et c'est lui qui va donner l'ordre d'exhumer ses corps. Donc ce qui m'a donné l'idée, c'est qu'avec mon éditeur, on causait. Et moi, je lui dis, j'aimerais bien écrire un truc sur aujourd'hui, etc. Et puis il me dit, oui, mais quand même, tu t'écris des bons romans historiques, et ça serait bien, parce que j'en ai écrit un autre, donc une histoire française, les 25 ans avant la Révolution, pour comprendre ce qui se passe, comment... Parce qu'en 1766, Louis XV dit en lit de justice, l'État, la France, c'est moi, je ne veux pas avoir une tête bougée. Enfin, il le dit mieux. Hein. Et 25 ans après, ça démarre, la Révolution. Qu'est-ce qui se passe? Donc on connaît pendant la Révolution après, mais pas avant. Et on s'aperçoit qu'à l'époque, il y a des gens qui sont pour le marché, d'autres qui sont pour l'intervention de l'État. Il y a des choses, je dis non, j'ai rien inventé, c'était à l'époque déjà comme ça. Et donc, je discute avec lui, et puis il me dit, ça serait bien que tu fasses un roman d'histoire, enfin, historique, quoi. Je lui dis, moi, si je fais quelque chose, c'est sur Jean de La Fontaine, parce que depuis tout petit, ça me fascine. Mais je ne savais pas que j'allais découvrir tout ça. Et en fait, au musée de Jean de La Fontaine, on trouve ce bouquin du colonel Josse, qui pendant 20 ans, a fait des recherches, et c'est lui qui est le plus proche de la ville de La Fontaine, parce qu'il y a vraiment des grands trous. On ne sait pas exactement, parce que par exemple, il monte à Paris, il veut être prêtre, il rentre, mais ça dure un an, parce qu'au bout d'un moment donné, il fait des vers sur ses copains qui prient le matin, et puis la théologie, ça passe pas. Il ne comprend rien, et les profs ils disent, non, on va pas, c'est une vraie bourrique, on va rien en tirer, etc. Donc il finit par se retirer, mais il veut être prêtre. Mais il y a des moments de sa vie qu'on ne connaît pas du tout. Donc, je me suis dit, j'aurais bien écrit sur La Fontaine. Alors, je me suis embarqué dans un truc qui a duré 2 ans, mais je ne regrette pas du tout. Et parce que, donc, c'était par fascination. Quand on est fasciné par quelque chose, il faut essayer, enfin, de mon point de vue, il faut essayer de comprendre. Et puis, pour moi, la littérature, c'est un instrument de connaissance. C'est-à-dire que je pense que si on veut comprendre ce qui se passe en Albanie, il faut lire Kadaré. Si on veut comprendre ce qui se passe au Brésil, il faut lire Amado. Et comme dit Aragon, comme Aragon avait fait dire dans son parti, il avait dit, la création artistique et littéraire est toujours devant. Il disait ça dans un parti qui disait qu'il y avait un socialisme scientifique. Il disait que c'est devant la science. Parce qu'il disait une loi scientifique, elle est valable 50 ans après, elle est fausse. Donc l'art, quelle que soit la forme de l'art, ça permet d'abord de dire « je », ça permet d'exister dans une société. C'est ce qui permet vraiment d'exister parce que c'est l'imaginaire. L'imaginaire, c'est pas ce qui n'est pas réel. Comme dit Lacan, l'imaginaire, c'est ce qui a rapport à l'image de soi. C'est ce qui permet de se construire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les écrivains, en général, ont des gros problèmes psychanalytiques ou identitaires. Et ils n'ont pas de papa, ou ils n'ont pas... Enfin bon, je plaisante, mais c'est pas loin, parce qu'ils ont besoin de se construire une image grâce à... Et donc, l'imaginaire, c'est absolument nécessaire, mais ça permet aussi... Alors, la connaissance, c'est pas le savoir, c'est naître ensemble. Donc, par exemple, je sais pas, moi, là, j'ai lu un... Alors, c'est pas un roman, c'est un témoignage d'Alexandre Vert sur la guerre en Russie, la guerre des soviétiques. Il y a Grossman aussi qui écrit ça. Quand on lit les choses, on comprend vraiment ce qui s'est passé. On comprend vraiment. Et donc, pour moi, La Fontaine, c'était de me glisser dans sa vie, dans sa peau, d'essayer de vraiment comprendre comment il vivait. D'ailleurs, le style, c'est un style, je fais beaucoup de collages de La Fontaine ou d'autres, et de comprendre ce qui pouvait, ce qui était en jeu, et pourquoi ça a marché, et pourquoi il est aussi important encore aujourd'hui. Et puis, parce que La Fontaine, c'est vrai que c'est... moi, quand j'étais gamin, j'avais les grands bouquins illustrés. J'étais émerveillé, quoi. Émerveillé.
D'ailleurs, la couverture est magnifique.
C'est moi qui l'ai choisie, celle-là. Je ne me suis pas laissé faire. Non, il voulait mettre une belle femme et tout, mais ça n'a rien à voir. Donc,
Oui, il y en a moins dans le de La Fontaine. En tout cas, dans celle qu'on connaît.
Quand vous avez étudié à l'école de La Fontaine, vous l'avez dit, c'est un désastre total. Dans celle en Malaisac, la moitié de la population qui avait 25 ans, on avait 20 ans de retard dans les techniques agricoles par rapport à la Hollande notamment. Et ça ne vous a pas démoralisé? Et voilà, les couleurs politiques, est-ce que ça vous a donné le courage ou l'envie d'écrire ce qui s'est passé en France avec les néolibéraux ces dernières années?
C'est-à-dire que moi je suis là, le prochain bouquin que je vais sortir, c'est des chroniques, ça s'appelle Face au Nouveau Maître. Donc non, parce que d'abord, j'ai fait des études d'histoire avant de faire des études de lettres, donc je sais que rien n'est jamais acquis, et je pense par exemple qu'en France là, dans les 20 ans qui vont venir, il y aura du sang et des larmes, Il y aura des pans entiers d'économie qui vont s'écrouler. Il y aura des couches moyennes qui vont redevenir des couches populaires. Et j'ai écrit un roman là-dessus qui s'appelle Un homme inutile. J'ai écrit il y a 13 ans. Quelqu'un des couches moyennes qui redescend dans le. Et donc, parce que, voilà, il y a la mondialisation, parce qu'il y a une certaine habitude de vie, il y a, enfin, pour des raisons politiques, etc., je pense que ça va dégringoler. Donc, moi, je ne suis pas d'une nature du tout pessimiste. Simplement, il se trouve que j'ai eu la chance de ne pas naître dans un milieu aisé. Et donc, je trouve que c'est une chance, parce que c'est une vraie chance, parce que, comme dit, moi, je suis comme La Fontaine, je me contente de peu, enfin, de peu. C'est-à-dire, je. Je ne recherche pas. Il y a un type, il faut absolument que vous lisiez ce type-là, il s'appelle Danny Robert Dufour. Il a écrit L'individu qui vient après le libéralisme. C'est un philosophe qui a 65 ans. Il a écrit aussi L'art de réduire les têtes, La cité perverse, L'individu qui vient après le libéralisme. Et il explique comment, en fait, le capitalisme est né. Il dit que ça s'appelle ce que les Grecs appellent la pléonexie. Il dit levez l'interdit moral et vous aurez le capitalisme. C'est-à-dire qu'il y a une conjonction à un moment donné où l'avoir a pris le pas sur l'être. Alors en même temps, le capitalisme, c'est une formidable progression, je veux dire, technique, machin, etc. Bon, bref. Donc, non, ça ne m'a pas découragé. Simplement, je ne pensais pas que c'était à ce point-là, quoi. Je ne pensais pas que c'était au point que les gens mangeaient des racines, que c'était... Enfin, voilà, Louis XIV a laissé le pays dans un état exsangue, quoi. Exsangue. Mais en même temps, je pense que la vie, c'est comme ça, de toute façon, dans sa propre vie.
Il est arrivé dans un état compliqué aussi, parce que le livre commence en 1652, pour un petit peu répondre à votre question. Oui. On sort quand même de 10 ans très troubles, puisque, même peut-être un petit peu plus, mais après la mort de Louis XIII, il y a la Régence, il y a la Fronde.
Ah bah c'est terrible, justement. Mais alors, Solaire se disait dans une émission, c'était sur Céline, parce que La Fontaine, Céline adorait La Fontaine, et Solaire se dit, oui, La Fontaine, c'est les petits oiseaux et tout. Moi, je commence avec le duc de Lorraine, qui c'est le Kosovo à Château-Thierry. C'est le Kosovo, c'est l'horreur totale. Les viols, les pillages et tout. Et La Fontaine assiste à ça. Et La Fontaine va écrire là-dessus. Simplement, il va tout perdre. Simplement, ça va lui le nourrir pour ses fables par la suite. Et en fait, c'est très troublé, c'est très dur. Et quand il est avec Turenne à cheval, effectivement, il sera avec Turenne à cheval, parce que c'est le frère du duc de Château-Thierry, du duc de Bouillon. Et c'est Turenne qui va chasser le Lorrain. Hors de Château-Thierry, du Luché, etc. Mais c'est des guerres sans arrêt. Enfin, et puis bon, il n'y a pas de Croix-Rouge à l'époque. Hein. C'est, je veux dire, tout le monde prend. Quoi. C'est les pillages, les soldats se payent en pillant. Enfin bon, oui, c'est terrifiant. C'est pour ça que je trouve que, pour répondre à votre question, je pense que le propre d'un artiste, le vrai travail d'un artiste, c'est de célébrer la vie. Mais pas de... Vous voyez, pour bien vous répondre, Céline, il disait à sa secrétaire, il faut noircir, il faut viser bas pour viser juste. Bon, c'est sa technique à lui. Aragon, lui, au contraire, il écrit la même chose, mais de mon point de vue, en tirant les gens vers le haut. Ben, quand j'ai des copains qui sont vraiment en dépression, je leur fais lire du Aragon, ça tire vers le haut parce que ce qu'il écrit est très dur, mais en même temps, il tire vraiment vers le haut, vers l'esprit, quoi. Et donc, je pense qu'un artiste doit non seulement faire œuvre de connaissance, mais aussi célébrer la vie, c'est-à-dire donner envie de vivre, quoi, et de se battre.
On va tout juste s'arrêter là parce que oui. Il y a la suite des événements. Alors, j'espère que vous aurez découvert et que vous allez continuer à découvrir ce genre de La Fontaine. Moi, j'ai appris énormément de choses en lisant cet ouvrage parce que je n'imaginais pas cette vie-là pour Jean de La Fontaine. Vous allez pouvoir continuer évidemment la discussion avec Valère si vous le souhaitez sous la butte du livre et puis pourquoi pas acheter le livre et lui faire dédicacer. Et puis si vous restez là, vous allez peut-être encore découvrir une autre face d'un autre personnage. Alors c'est vrai qu'aux imaginales, alors qu'il y a un mousquetaire qui est en train d'arriver au fond, il se passe des trucs.
C'est
extrêmement troublant, mais c'est pas d'Artagnan dont il va être question, c'est du grand Schtroumpf dans quelques instants. Vous allez voir que le grand Schtroumpf va en prendre pour son grade, le pauvre garçon.
Parce qu'il y a les mousquetaires de Richelieu et ceux de Louis XIII qui n'étaient pas les mêmes. Mais juste pour terminer quand même sur La Fontaine, pour vous dire aussi que c'est un très très grand poète de l'amour. Vraiment dans ses contes, etc., sur l'amour. Et il dit « Je n'ajouterai rien donc à tout ce long discours que ceci seulement qui part d'un cœur sincère, je vous aime, aimez-moi toujours. » Voilà. Bah, merci à vous.
Merci.
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 Merci Christophe. Merci. C'est toujours...
Enfin, en tout cas, pour moi, c'était intéressant.
En tout cas, je pense
effectivement que voilà, on va.
Ça va être vraiment à dire pour ça, puis je vous remercie pour l'invitation. Mais aussi. Parce que hier, j'avais peur avec Fantasy, voilà. Mais en plus,
les auteurs de romans historiques, c'est souvent comme ça au début. Et puis, voilà, c'est souvent aussi. Alors, je ne sais pas comment Stéphanie vraiment travaille, mais moi, en tout cas, quand j'ai eu l'occasion de rencontrer des auteurs comme vous, il y avait ça. J'essaie justement.